France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment faut-il s'y prendre pour apprendre ? Dès notre naissance, et peut-être même avant, nous devenons progressivement capables de saisir, d'organiser et d'utiliser certaines des informations qui proviennent de l'extérieur de nous-mêmes. Tout cela grâce à nos facultés dites cognitives. Mais de quoi ces facultés sont-elles constituées ? Sont-elles d'emblée en place ? Ou bien émergent-elles au fil du temps au sein de nos cerveaux ? Je vous propose que nous interrogions à ce propos les neurosciences, aujourd'hui foisonnantes et même en plein bouillonnement. Parviennent-elles à comprendre au moins un peu en quoi consiste l'acte d'apprendre ? Et pourrions-nous utiliser ce qu'elles ont à nous apprendre pour mieux apprendre, sur les bancs de l'école ou ailleurs, par exemple, sur France Culture ? Pour répondre à ces questions, j'ai la joie de recevoir Stanislas Dehaene. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuroscientifique, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences et vous venez de publier un livre intitulé « Une idée dans la tête, 40 pépites réjouissantes sur le cerveau et l'apprentissage » qui vient de paraître donc aux éditions Odile Jacob. D'abord, je me permets, ainsi qu'à nos auditeurs, de vous souhaiter une bonne année 2025.
Oui, bonne année.
2025, aussi, c'est un carré, c'est le carré de 45. Il faut savoir en profiter car ce n'est pas si fréquent. La dernière fois, c'était en 1936, 44 au carré. La prochaine fois, ce sera en 2116, 46 au carré. Nous serons pas mal à être morts cette année-là. Alors, vous parlez donc dans ce livre de l'apprentissage. Nous, les humains, nous apprenons, mais vous montrez que les animaux aussi apprennent, peut-être pas autant, mais ils apprennent aussi. Les limaces apprennent, les fourmis apprennent. Comment est-ce qu'on sait qu'elles apprennent ? Vous donnez par exemple l'exemple des fourmis auxquelles vous donnez des échasses.
C'est pas moi qui l'ai fait, mais il y a une expérience magnifique dans Science qui porte à la fois sur le sens de la géométrie, qui est inné chez les fourmis et chez beaucoup d'autres insectes, et puis sur la part d'apprentissage. Parce que l'expérience montre, d'abord, il faut revenir un petit peu en arrière, que les fourmis du désert sont capables de naviguer dans l'espace. Ça, c'est une part d'inné qui est absolument colossale et qui est en fait présente dans toutes les espèces animales, la capacité de cartographier l'espace. Et donc la fourmi du désert, son comportement est assez remarquable, elle quitte son nid souterrain, elle va faire une sorte de mouvement brownien, un peu au hasard, parce qu'elle cherche de la nourriture, mais lorsqu'elle trouve un morceau de nourriture, elle va revenir droit vers son nid. Alors on pourrait penser qu'elle est guidée par des phéromones, des odeurs, pas du tout, parce qu'on peut la déplacer au moment où elle trouve la nourriture, et elle va tracer un vecteur dans l'espace qui est juste de la bonne longueur et dans la bonne direction. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle a un sens de l'espace, on parle d'un sens un petit peu comme celui des navigateurs, on appelle ça « dead reckoning », c'est-à-dire arriver à faire l'intégrale de son chemin. Et l'histoire des échasses, c'est que les chercheurs se sont demandé si elle avait un sens continu de l'espace, ou bien peut-être, une des idées, c'est qu'elle compte ses pas, comme nous le faisons, pour savoir à quelle distance on va. Et du coup, ils ont raccourci ou rallongé, avec des soies de porc, ils ont collé sur les 6 pattes de la fourmi des petites échasses, et ils ont montré que le vecteur du déplacement de la fourmi était multiplié ou divisé d'autant. Autrement dit, la fourmi compte ses pas. C'est le nombre de pas qui lui sert d'indice.
Mais elle s'adapte à la longueur de ses pas qu'on peut augmenter ou rétrécir.
Alors voilà, alors au départ, on fait l'expérience et le vecteur est trop long. Et apparemment, on attend quelques jours et la fourmi s'adapte. Elle a recalibré son système. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a un dialogue entre l'inné et l'acquis dans cette situation. Il y a à la fois énormément d'inné. On pense que la carte spatiale est dans le cerveau, les neurones qui forment ce qu'on appelle des cellules de grille qui cartographient l'espace, c'est inné. Mais la calibration de ce système, l'orientation par rapport à l'environnement, la présence de traits saillants, de landmarks, comme on dit en anglais, de points saillants de l'espace, évidemment, ça doit être appris dans un contexte particulier.
Mais Stanislas Dehaene, ces fourmis qui ont appris quelque chose, est-ce que ça a modifié leur cerveau ? Et d'une façon générale, est-ce que apprendre modifie le cerveau ?
Alors, apprendre, bien entendu, modifie le cerveau. Ça se passe dans les connexions entre les neurones. Dans le cas de la fourmi, que je sache, ça n'a pas encore été bien identifié. Vous imaginez la difficulté qu'il y a dans un organisme aussi miniaturisé à faire des neurosciences avec des conglomérats de neurones extrêmement denses. C'est très difficile. Il faut savoir quand même que chez l'abeille, par contre, et aussi chez la mouche drosophile, là, il y a de très grands progrès. Et chez la mouche drosophile, la totalité des connexions du cerveau et des neurones du cerveau a été cartographiée. On insiste plutôt à ce moment-là sur l'aspect reproductible de ce circuit, mais bien entendu, il y a aussi des modifications synaptiques qui se produisent quand l'animal a appris telle ou telle chose. Alors, on pense pas assez aux abeilles, hein. Les abeilles apprennent énormément de choses. Elles apprennent la forme des fleurs qu'elles reconnaissent, elles apprennent la quantité de pollen qu'on va trouver à tel endroit ou à tel autre, et elles apprennent des informations abstraites. Il y a des expériences magnifiques d'un collègue du CNRS, Martin Jurfa, qui montre que les abeilles sont capables d'apprendre, par exemple, à prendre le tunnel de gauche si elles voient deux points sur une carte, et à prendre le tunnel de droite si elles en voient quatre. Et en fait, elles choisissent le plus grand ou le plus petit, et elles sont même capables de généraliser au nombre zéro. Ça veut dire que zéro fait partie des nombres pour l'abeille, et la quantité zéro est la plus petite de toutes pour elles comme pour nous. Mais elles ont appris à associer ce nombre, qui est sans doute inné, avec une représentation arbitraire, tournée à gauche ou tournée à droite.
Mais est-ce que le fait de savoir suppose qu'on a conscience de savoir ?
Non. Ça, c'est clair. Non. Il y a beaucoup d'apprentissages qui sont non conscients.
Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler de savoir ? Est-ce que c'est pas plutôt une compétence ?
Dans notre domaine, on essaye de faire ce genre de distinction. La distinction importante, c'est entre apprentissage conscient et apprentissage non conscient. Et il y a beaucoup de débats pour savoir si la conscience doit être étendue aux insectes, mais ce qui est absolument clair, c'est que une grande part de ces apprentissages sont totalement non conscients. Vous avez appris, par exemple, à vous tenir debout, c'est qui est quand même un comportement remarquable, parce qu'il faut arriver à contrebalancer le déséquilibre permanent du corps. On n'en a aucune conscience. Il y a des connexions et un circuit assez complexe qui relie notre oreille interne et notre vision avec le rééquilibrage permanent du pendule inversé qu'est le corps humain. Quand il est debout sur ses pieds, c'est un pendule inversé, c'est donc en déséquilibre, et nous n'avons aucune conscience des calculs que nous faisons pour nous tenir debout. Donc c'est un bon exemple, c'est un système qui s'est calibré, qui a appris en partie, avec évidemment une très large part de structure innée, et qui est totalement en dehors de notre conscience. Alors, nous, on parle effectivement d'une compétence non consciente, et peut-être, effectivement, devrait-on réserver le terme de connaissance pour des savoirs conscients. Mais la marge entre les deux est complexe, parce que dans beaucoup d'apprentissages que nous faisons, c'est conscient au départ, presque toujours, hein, et puis ça s'automatise. Et l'information disparaît dans des circuits non conscients, c'est ce qu'on appelle l'automatisation. J'en fais l'un des quatre grands piliers de l'apprentissage, c'est-à-dire que c'est extrêmement important pour les enfants d'automatiser les fondamentaux, les compétences les plus fondamentales qu'ils apprennent.
Mais est-ce que vous êtes capable de répondre à la question de savoir pourquoi nous devons apprendre ? Pourquoi est-ce qu'on ne naît pas pré-câblé, c'est-à-dire doté de toutes les connaissances nécessaires à notre survie ? Pourquoi est-ce que les connaissances ne sont pas dans l'ADN, pour dire les choses autrement ?
Oui, c'est une question que j'essaie de poser dans le bouquin.
D'un point de vue darwinien, ça serait plus efficace ?
On survivrait mieux, peut-être, si on avait énormément de connaissances innées. Je pense qu'il y a deux raisons très simples. La première, c'est que même un nématode, puisqu'il y a de l'apprentissage chez le petit ver, même une mouche drosophile, elle naît dans un environnement qui n'est pas totalement reproductible. Elle a besoin de s'adapter à des conditions particulières, de vent, de soleil, De végétation.
Vous voulez dire que si elle naissait ailleurs, ce qu'elle aurait appris de façon innée serait pas adapté.
Ça ne serait pas suffisant. C'est ça qui fait que ce qui est inné chez nous est extrêmement abstrait, en fait. Par exemple, l'existence même de l'écoulement du temps et du rythme circadien. Ça, c'est inné. L'existence de cartes spatiales. On sait qu'on va devoir se déplacer dans l'environnement, quel qu'il soit. Voilà. Mais le détail, tel ou tel point remarquable de l'environnement, tel ou tel bosquet remarquable pour les abeilles, c'est évidemment, ça doit être appris. Puis alors, la deuxième raison, c'est que ça n'est pas possible de coder dans le génome toutes les informations que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Il n'y a simplement pas assez de place dans le génome, et par rapport au nombre de neurones dans notre cerveau, qui est de 86 milliards de neurones. Donc une très large marge est laissée à l'apprentissage, et dans l'espèce humaine, c'est la marge la plus vaste. Nous avons clairement évolué pour augmenter la période d'apprentissage. d'apprentissage. On a maintenant une enfance qui est extrêmement longue, hein, qui va jusqu'à 20-25 ans de plasticité cérébrale, et la plasticité ne s'éteint jamais complètement.
Qu'est-ce que vous appelez la plasticité cérébrale, qui est un terme qui revient souvent dans votre
plume ? Alors, entendons-nous bien, oui, c'est important. Hein. Oui, c'est pas seulement sous ma plume, hein, c'est vraiment un terme clé du domaine.
J'ai vu plusieurs définitions différentes. Oui.
Alors, pour moi, c'est très clair. Un système plastique, c'est un système qui est malléable, qui bouge, qui est capable d'une certaine souplesse, et il faut le prendre au sens strictement littéral, c'est-à-dire penser que toutes les cellules de votre cerveau sont des cellules autonomes et mobiles, un peu comme de petits animaux unicellulaires. Alors on le voit au tout départ, lorsque ce circuit se met en place, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, j'incite les auditeurs à aller éventuellement à la Cité des Sciences, voir l'exposition Cerveau, qui est toujours en place et qui montre ces films, où on voit d'une part les neurones excitateurs grimper, littéralement sur des cordages, des cellules gliales, pour monter et se dépasser les uns les autres, vraiment comme des petits animaux qui grimpent. Oui. Et puis dans le même temps, les cellules inhibitrices qui arrivent, qui viennent comme une sorte de fleuve, de petits poissons, qui viennent transversalement et se mettre en place dans les mêmes circuits. Donc ça bouge, apprend, ça bouge.
C'est une sorte de compétition ?
Alors il y a de la compétition, mais avant tout, d'abord, il y a un surplus de ressources. Il y a un surplus de neurones, il y a surtout un surplus de synapses. Donc, dans les périodes clés de la petite enfance, les neurones bourgeonnent. Au départ, à la naissance, ils sont plutôt comme des arbres assez dépouillés, puis on voit des branches grandir, c'est un peu comme une sorte de printemps du cerveau, hein, c'est la métaphore que j'utilise. On voit apparaître des bourgeonnements un peu partout. Et dans la petite enfance, il y en a jusqu'à deux fois plus de synapses que chez l'adulte. Donc, il va y avoir effectivement compétition et sélection synaptique pour ne garder que les connexions qui sont les plus efficaces et les plus utiles à un circuit donné.
Est-ce que vous serez d'accord avec moi, Stanislas Dehaene, si je dis qu'un bébé, c'est une machine à produire des synapses ?
Entre autres, c'est une machine à faire des tas de choses, mais la production de synapses, effectivement, a un coût métabolique très important pour le cerveau. Chez le bébé, la consommation énergétique du cerveau est encore plus grande que chez l'adulte, où elle est de l'ordre de 20% de la consommation énergique du corps au repos. Hein. Le bébé dépense énormément de son énergie à cette surproduction et à cette sélection synaptique.
Vous avez dit tout à l'heure que la jeunesse dure plus longtemps. Alors, est-ce que ça se comprend et comment est-ce que ça se mesure et combien de temps dure la période pendant laquelle le cerveau peut être dit juvénile?
Alors, on estime 7 ans, à peu près 20-25 ans, c'est fondé sur ces courbes de surproduction et d'élimination synaptique. On voit que ça n'est pas la même chose dans les différentes régions du cerveau. Donc, il faut être un peu prudent dans ce côté-là. Si on regarde uniquement, par exemple, le système visuel précoce, l'aire visuelle V1, qui est située sur le cortex occipital, c'est là que rentrent les informations visuelles, elle va se figer plus vite que les autres. Et toutes les aires sensorielles sont à la fois plus matures chez le jeune enfant et se stabilisent plus vite au cours de l'évolution synaptique. Si on regarde par contre à l'autre opposé du spectre, le cortex préfrontal qui caractérise l'espèce humaine, qui est à l'avant, derrière le front, qui fait partie donc des régions de très haut niveau cognitif, la maturation dure au moins jusqu'à l'adolescence et plutôt jusqu'à 20-25 ans. Et encore, les changements continuent de pouvoir se produire chez l'adulte, bien entendu.
Mais c'est quand même plutôt dans la jeunesse qu'il faut aller à l'école.
La plasticité est immense à ce moment-là, et moi je pense qu'on a inventé l'école, puisque c'est une invention culturelle, parce que les humains se sont rendus compte que ça valait la peine d'intensifier nos efforts pour que le cerveau change maximalement durant cette période-là. Donc l'invention de l'école, c'est la prise en compte des contraintes biologiques de notre cerveau.
Est-ce que vous, et quand je dis vous, je parle à tous les neuroscientifiques, est-ce que vous êtes capable de définir et de caractériser ce qu'on appelle une idée ? Parce qu'il y a une phrase dans votre livre qui m'a intrigué, et j'aimerais bien que vous l'éclaircissiez si c'est possible. Vous écrivez, en vous adressant à vos lecteurs, « Chacune de vos idées est une vague chimique qui ondule dans une forêt de neurones électriques. » Et un peu avant, vous avez parlé du glutamate, qui est une molécule qui a l'air de faire des choses...
un neurotransmetteur qui transmet justement les impulsions nerveuses. Non, la théorie du fonctionnement du cerveau n'est pas encore parfaitement connue, hein. Mais cette phrase essaye de dire que ce que nous croyons, c'est que toutes les idées conscientes, toutes les pensées que nous avons, ce sont des états d'activité électrique de notre cerveau. Il faut imaginer Donc, un très grand nombre de neurones distribués dans le cortex préfrontal et dans d'autres régions associatives du cerveau. Certains sont allumés et d'autres sont éteints. Beaucoup sont éteints. L'activité est très éparse dans le cerveau humain. Donc, imaginez un neurone sur 20 qui soit allumé et qui est en train de décharger. L'identité de ces neurones est comme une sorte de carte de la pensée. Chacune de nos pensées correspond à une configuration d'activité électrique différente de ces neurones. Et c'est pour ça qu'on trouve, quand on enregistre des neurones comme on peut le faire chez des patients épileptiques, on trouve des neurones qui sont extrêmement sélectifs à une idée particulière. Nous avons par exemple une publication récente, on a montré qu'il y avait un neurone qui répondait à Shrek, le personnage de dessin animé.
Qui répond dans quel sens ?
Ça veut dire que ce neurone répond au concept, la personne Shrek. Pourquoi on parle de cellules de concept et on en trouve d'autres, par exemple pour Luke Skywalker. Dans un autre livre, j'ai montré un neurone qui répond à Luke Skywalker. La raison pour laquelle on parle de cellules de concept, c'est que ces neurones répondent à une image. Alors si c'était juste l'image, on pourrait dire c'est peut-être la couleur, bon, mais pas du tout, parce qu'il peut répondre à beaucoup d'images très différentes du même personnage, par exemple en noir et blanc et en couleur, Luke Skywalker jeune ou âgé, en costume
donc,
de Jedi
donc
ou
c'est
pas.
Vraiment le concept.
Et puis, ce même neurone va répondre aux mots écrits ou aux mots parlés chez l'homme. Donc ça veut dire vraiment une représentation de très haut niveau qui est commune aux images et aux mots. Voilà. Donc ça veut dire que nos pensées sont de ce type. Ce sont des traces neuronales avec un petit nombre de neurones excités qui disent de quoi il s'agit, et puis beaucoup de neurones éteints qui disent de quoi il ne s'agit pas.
Mais quelle relation y a-t-il entre, disons, l'activité cérébrale telle que vous l'observez, et puis la pensée en général ?
Nous, on n'utilise pas tellement le terme de pensée en sciences cognitives, mais on parle de représentation mentale, et on distingue donc celles qui sont conscientes et celles qui ne sont pas conscientes. Mais nous pensons que l'une comme l'autre sont des tapisseries d'activités neuronales, actives ou inactives.
Voilà. Mais par exemple,
et dans le conscient, c'est plutôt l'activation du cortex préfrontal qui est engagée.
Mais si un grand scientifique un jour a une espèce d'eureka, une idée géniale qui germe, est-ce que vous pensez que ça se verrait dans l'activité cérébrale du cerveau à ce moment précis ?
Oui, absolument. D'abord sur une base théorique, parce que oui, toutes nos pensées sont dans le cerveau, mais oui aussi parce que l'expérience a été faite. Alors peut-être pas dans le contexte de la science, c'est difficile de coincer un scientifique qui a une idée peut-être une fois tous les trois ans ou une fois par vie pour les bonnes idées. Mais l'expérience a été faite dans un contexte plus restreint qui est un petit peu comme une sorte de mot croisé. Vous savez, quand vous avez une définition et puis paf. Vous comprenez que ce mot-là, et seul ce mot-là, rend compte de la définition. Donc l'expérience a été faite avec des triplés de mots, où vous ne voyez pas le rapport, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous en trouviez un quatrième, qui est le bon mot qui colle avec les trois autres. Et là, c'est une expérience qui est reproductible, on peut la faire 40, 50 fois de suite, et il a été montré qu'il y a une décharge d'activité neuronale synchrone, spécifique.
Et là, c'est plutôt une joie intellectuelle. C'est plutôt une joie intellectuelle.
C'est difficile de faire la part des choses entre les émotions et l'accès direct à la représentation. Il faut quand même être très clair vis-à-vis de nos auditeurs. Pour l'instant, voir des neurones individuels et des populations de neurones chez l'homme, c'est encore extrêmement rare. Donc ces neurones de Luke Skywalker ou de telle ou telle personne, il y en a un qui répondait à Jennifer Anderson. Bon, tous ces neurones-là, ça reste encore un peu anecdotique parce que ce sont quelques dizaines de cellules qui peuvent être enregistrées chez les patients épileptiques. Simplement, la technologie avance tellement vite que maintenant les électrodes permettent d'enregistrer des centaines de neurones. On peut appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle pour décoder l'activité de ces populations de neurones, et donc on arrive à tirer beaucoup plus d'informations de ces enregistrements, et c'est vraiment, cette science est galopante en ce moment.
Vous consacrez plusieurs pages à l'apprentissage du langage. Bon, en anglais, comme beaucoup, j'ai un accent fort, repérable.
Moi aussi.
Est-ce que ça vient du fait que j'ai appris l'anglais trop tard ?
Alors, ce que montre la recherche, c'est qu'effectivement, plus on apprend tôt, et vraiment on parle de très tôt, c'est-à-dire dans les toutes premières années de la vie, plus l'accent et aussi la grammaire de la langue vont être représentés comme chez une personne monolingue. Je montre dans le livre la courbe d'évolution, enfin c'est dans mon livre Apprendre, la courbe de l'évolution des performances en fonction de l'âge d'acquisition. Et même entre 0 et quelques années de vie, il y a déjà une petite décroissance de la capacité de parler sans accent étranger et sans erreur de syntaxe.
Il faut s'y mettre avant de naître.
Alors il y a des apprentissages avant même la naissance, peut-être pas l'aspect dominant. Non, il faut surtout s'y mettre avant la puberté. Le vrai collapse, si je puis dire, c'est au moment de la puberté. C'est là que nos performances chutent assez dramatiquement. Ça correspond sans doute à une sorte de fermeture de la plasticité dans ces circuits. Et comme il faut quand même beaucoup d'années pour apprendre une langue, il vaut mieux s'y mettre bien avant la puberté. Ce que montrent aussi ces recherches, c'est qu'il faut s'y mettre par immersion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un décalage entre les réussites des gens qui ont appris par immersion, en allant passer des semaines ou quelques mois à l'étranger, qui sont bien meilleurs que ceux qui ont appris simplement.
Vous voulez dire que regarder la télé, ça suffit pas?
Ça aide, mais ça ne suffit pas. Et chez le tout petit, ça n'aide pas du tout, en fait. Il y a des expériences assez étonnantes qui montrent que le même apprentissage avec une nounou qui est auprès du bébé de 10 à 12 mois, versus avec une télé très haute qualité, qui montre la même personne en couleur, en train de parler le chinois, c'était du chinois dans cette expérience, eh bien, il y a un effet très fort de la personne, il y a un effet très faible ou nul de la télévision. Donc il y a un âge où il faut vraiment interagir avec des personnes.
Donc j'ai de bonnes raisons d'en vouloir à mes parents de ne pas m'avoir donné une nounou anglaise.
Peut-être. En tout cas, on peut dire les choses plus positivement. Si vous avez la chance d'être un couple où vous avez deux langues différentes, parlez-les. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui ont peur du bilinguisme. Ça va confusionner le bébé. Ça va mélanger ses synapses. Ça n'est pas le cas. C'est vraiment, le bébé doit être vu comme un super ordinateur. Il est tout à fait capable de trier les informations et de savoir que telle personne parle telle langue et telle autre personne parle telle autre langue.
Vous dites dans votre livre que l'apprentissage qu'un bébé fait de sa langue maternelle au singulier, la langue de sa mère, est un désapprentissage qui s'effectue durant la première année de la vie. Comment est-ce qu'on peut apprendre en désapprenant?
Oui, c'est un concept important, un petit peu comme on sélectionne des synapses. Je parle là assez spécifiquement de l'apprentissage des phonèmes, de la phonologie de la langue, c'est-à-dire les consonnes et les voyelles qui sont propres à chacune des langues. Je ne sais pas si les gens en sont conscients, mais tout le monde n'utilise pas les mêmes consonnes et les mêmes voyelles. Les Japonais, par exemple, n'utilisent pas le contraste entre un R et un L. Et c'est pour ça qu'ils font des erreurs de prononciation qui peuvent nous amuser. Mais il ne faut pas croire que nous sommes supérieurs. Il y a d'autres contrastes en français que nous ne faisons pas. Eh bien, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'équipement inné du bébé lui permet de distinguer tous les contrastes de tous les phonèmes, toutes les langues du monde.
Donc il est polyglotte par naissance.
Il est isotrope, on peut dire, oui. Il est même pas polyglotte parce qu'il n'a pas encore convergé du tout vers aucune des langues. Il a toutes ces possibilités en lui. Et ça va converger extrêmement rapidement dans son cerveau lorsqu'il est exposé à du langage parlé. Vers 6 mois de vie, il a compris quelles sont les voyelles de sa langue maternelle, et vers 12 mois de vie, il a compris quelles sont les consonnes de sa langue maternelle. Donc c'est important de bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Le petit bébé ne parle absolument pas à ce moment-là, mais son cerveau est déjà en train de travailler avec une extraordinaire efficacité sur l'analyse de la langue. Et il faut absolument qu'il soit stimulé à ce moment-là. C'est par la stimulation qu'il peut converger. Il faut lui parler.
Et ben vous parlez du Stanislas Vane, du gène FOXP2. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il fait ce gène?
Alors, si on savait ce qu'il fait exactement, il intervient dans pas mal de fonctions, mais il a été identifié pour la première fois chez une famille assez grande en Angleterre, dont la moitié des membres avaient de très grandes difficultés d'élocution et une sorte de dysarthrie de la parole. Et en fait, on s'est aperçu que ce gène, lorsqu'il était muté, effectivement, affectait les circuits de production de la parole et avait joué un rôle dans l'évolution humaine parce qu'il a des mutations spécifiques à l'espèce humaine, même par rapport à nos cousins les plus proches, les primates. L'histoire continue avec ensuite l'analyse des chants des oiseaux et l'existence d'un gène FOXP2 extrêmement similaire chez les oiseaux qui joue un rôle dans l'apprentissage du chant. De la même manière que nous apprenons à parler, beaucoup d'oiseaux apprennent à chanter. Pas tous, mais chez beaucoup, comme le canari par exemple, le chant est flexible. Et chaque oiseau, même s'ils appartiennent à la même espèce, chaque oiseau va apprendre le dialecte du coin, comme nous apprenons des langues différentes. Eh bien, le gène FOXP2 joue un rôle direct dans ces apprentissages. Et chez certaines espèces, comme je l'explique dans le livre, c'est encore plus extraordinaire parce que nous apprenons les langues et puis ça se ferme à la puberté. Mais chez certains 15 oiseaux chanteurs, chaque printemps est un nouvel épisode d'apprentissage. Et le jeune Fox P2 se rallume, les circuits se remettent en route à chaque printemps pour réapprendre éventuellement un dialecte légèrement différent. Donc ce gène joue clairement un rôle pas encore parfaitement compris dans la plasticité cérébrale qui permet d'apprendre le langage et le chant chez l'oiseau.
Venons-en, Stanislas Dehaene, à l'apprentissage de la lecture. Vous expliquez dans votre livre que quand on apprend à lire, ça augmente la précision de la vision.
Exact.
On voit mieux.
On voit mieux, on entend
mieux. Je croyais que ça rendait myope.
Ouais, il y a deux choses très différentes. On peut rappeler aux auditeurs que c'est très important que les enfants sortent dehors. Il y a une épidémie de myopie et elle est liée en partie au fait que les enfants ne sortent plus suffisamment et ne sont pas assez exposés à la lumière vive du soleil. Donc ça, c'est une chose. Effectivement, quand on lit, sauf si on lit dehors, on risque d'être mal exposé. Mais par ailleurs, donc au niveau cérébral et non pas au niveau rétinien, ou même au niveau de la forme de l'œil, au niveau cérébral, l'apprentissage de la lecture a des effets très profonds sur les circuits visuels et sur la connexion entre la vision et le langage, en fait. Alors, j'essaye d'expliquer que autant apprendre à parler, c'est très naturel, très inné, les enfants vont le faire extrêmement tôt, apprendre à lire, c'est très différent parce que c'est une invention culturelle. On a trouvé une astuce qui est que notre cerveau peut apprendre des caractères arbitraires, pas tout à fait, mais presque arbitraires, qui sont ceux des lettres écrites, et à les mettre en relation, les connecter avec les aires du langage. C'est ça qui se produit quand on apprend à lire, et au passage, on raffine fortement la précision de notre système visuel. Les lettres peuvent être toutes petites. Au départ, évidemment, chez l'enfant, souvent, on les écrit en grand, mais avec l'automatisation, l'apprentissage recule, en quelque sorte, dans le cerveau, va de plus en plus dans les aires précoces du cerveau et jusqu'au cortex occipital, où on a la plus haute précision, et on est capable de faire des distinctions minuscules entre deux lettres, et on améliore au passage la précision de tous nos apprentissages visuels.
Et comment est-ce qu'on a pu le démontrer ? Faut trouver des gens qui soient analphabètes.
Exactement. On a fait des manips là-dessus. Ça fait partie de la beauté de mon métier, de faire des expériences un peu étonnantes comme ça. On peut amener dans nos machines d'imagerie cérébrale toutes sortes de personnes. Et en l'occurrence, il y a quelques années, on a fait donc cet effort d'identifier des gens qui étaient analphabètes simplement parce qu'ils n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école. Pas parce qu'ils avaient un retard mental. C'était des gens normaux qui avaient un boulot, etc. Mais on a trouvé en particulier des femmes au Portugal. C'est un peu triste, hein. Mais à l'époque, leur famille n'avait pas eu la possibilité de les envoyer à l'école pour des raisons matérielles. Et on a fait l'expérience aussi en parallèle au Brésil, dans l'environnement de Brasilia, dans un rayon de 300 km autour de Brasilia. On trouve assez facilement, encore aujourd'hui d'ailleurs, des jeunes qui ont simplement pas la chance d'aller à l'école. En Europe, honnêtement, ça n'existe plus. Alors on a fait cette expérience de les scanner. On a aussi des expériences où on scanne les gens avant et après apprentissage de la lecture. Et en ce moment même, on a une très grosse expérience au Brésil où on apprend à ces gens à lire alors que ce sont des jeunes adultes. Et les résultats sont très clairs. La différence entre un cerveau analphabète et un cerveau alphabétisé, comme vous et moi, c'est principalement une différence d'activation dans les aires visuelles, mais aussi dans les connexions entre la vision et les phonèmes du langage. C'est ce lien qui nous permet de décoder n'importe quelle lettre pour en comprendre la sonorité, et donc comprendre la sonorité d'un mot qui est écrit. C'est Quevedo qui disait « on entend la voix des morts avec les yeux ». C'est extraordinaire la lecture, on entend la voix des morts avec les yeux.
À ce propos, dans ce chapitre sur la lecture, vous parlez de Joël Martin, qui écrit toujours dans les contrepétries du Canard enchaîné.
Absolument.
Tel que Nadal a un tennis prévisible, ou bien il vaut mieux avoir des cuisses souples qu'être un couple suisse. Qu'est-ce qui fait que quand on lit une contrepétrie, quand on la comprend, ça fait cliquer les neurones, comme vous dites?
Oui,
c'est
parce
quoi le processus?
Dans la contrepétrie, ce qui est essentiel, c'est qu'on échange des phonèmes. Et là, dans les deux exemples que vous avez donnés, on échange deux consonnes. On déplace la consonne du premier mot vers la consonne du deuxième mot et vice-versa. Alors cette capacité de faire attention aux consonnes, c'est le résultat de l'apprentissage dans un système alphabétique. Il y a de très jolies expériences déjà anciennes de José Moraes qui montrent que les analphabètes ne savent pas faire ça. Ils entendent la syllabe, et les petits-enfants entendent très bien les syllabes, mais ils n'entendent pas la présence des composants élémentaires que sont les phonèmes eux-mêmes. Et donc, par exemple, si je dis, je ne sais pas, « strict », c'est très difficile pour un illettré d'entendre qu'il n'y a pas un objet, la syllabe « strict », mais il y a « st », etc. Il y a tous ces phonèmes séparés. Et de dire que il y a le même phonème dans cil et dans lis, par exemple, en début ou en fin de mot, le même ce, très difficile. Donc, c'est le résultat de l'apprentissage, la dissection de la phonologie par le biais des lettres, ce qu'on appelle la conscience phonologique, qui permet ensuite de mieux comprendre les contrepétries.
Comment ça se passe pour les personnes? Alors d'abord, si je tiens compte de ce que vous venez de dire, vous recommanderiez aux parents de jeunes enfants de leur montrer parfois des contrepétries?
Oui, ben surtout des jeux de langage, tout simplement. Hein. Au départ, ça se fait avec des syllabes, et tous les parents le savent, des rimes, des comptines, qui utilisent la rime comme un jeu de mots. Il y a des livres absolument merveilleux pour les enfants. Il y a d'ailleurs des livres de contrepétrie pour les enfants. Mais il y a des livres comme La belle l'espoir de Motordu, qui est merveilleux à lire à ses enfants. Et ça les amuse beaucoup de faire des erreurs, évidemment, de lecture, d'avoir des jeux de mots comme ça. Mais c'est pas juste un jeu, ça va en fait les faire travailler sur ce niveau phonologique et les préparer à la lecture.
Vous dites aussi, Stanislas Dohen, que quand on est bilingue, si on est bilingue dans deux langues qui ont le même alphabet, comme l'anglais, l'allemand, le français, ça fait travailler la même zone cérébrale. Mais si on est bilingue dans deux langues qui ont des alphabets différents, français et chinois par exemple, c'est deux zones différentes.
Oui, ça c'est le résultat d'une recherche toute récente. On a la chance à Neurospin, sur le plateau de Saclay où je travaille, d'avoir des instruments d'imagerie cérébrale de plus en plus puissants. On a d'ailleurs en ce moment l'IRM la plus puissante du monde, mais qui n'est pas encore capable de produire des images d'activité cérébrale. Mais on a utilisé une IRM de très haut champ, qui s'appelle l'IRM à 7 Tesla, pour zoomer sur les régions qui s'intéressent à la lecture. Et on a fait cette découverte. Il y a un circuit de la lecture, mais il se différencie très légèrement entre des petits patchs de cortex qui sont spécialisés. Et effectivement, si vous apprenez à lire l'alphabet romain, même si vous êtes bilingue entre français et anglais, vous avez exactement le même circuit. Mais si vous êtes bilingue anglais-chinois, on a observé qu'il y avait des tout petits patchs de cortex qui s'intéressaient que aux chinois. Et plutôt dans ce sens-là, d'ailleurs, parce qu'il y a une complexité plus grande. Une petite région du cortex de quelques millimètres de diamètre dans lequel il semblerait que les neurones soient extrêmement spécialisés. Ça, c'est une découverte qui a été faite au départ chez le singe par Doris Tsao, une chercheuse américaine d'origine chinoise. Elle a découvert que si on faisait l'IRM de haute résolution, on trouve de toutes petites régions qui s'activent pour les visages. Et si ensuite on descend une électrode, ce qu'on veut faire chez le singe, pour aller voir que font les neurones dans cette région, 98% des neurones étaient spécialisés pour les visages. Donc il y a vraiment une sorte d'ultra-spécialisation dans le cortex. Et nous avons trouvé la même chose pour la lecture. Une fois qu'on a appris à lire, il y a une toute petite région du cortex, plusieurs petites régions, de quelques millimètres carrés, qui sont ultra-spécialisées pour les lettres. Là, cette spécialisation, qui est le résultat de l'apprentissage, est tellement extraordinaire que cette région répond aux lettres et pas aux chiffres. On pourrait penser que c'est le même genre de forme et le même genre de fonction pour la lecture, hein, mais c'est pas du tout le même circuit.
Ça veut dire que chaque cerveau se spécialise à sa façon.
Exactement.
De sorte qu'on peut pas dire qu'il y a deux cerveaux uniques.
Absolument. En fait, le cerveau se spécialise. Il faut comprendre cette tension entre universalisme et individualisation du cerveau. Nous avons tous un cerveau d'Homo sapiens. Hommes, femmes, quelles que soient les races, nous avons cette architecture innée qui fait de nous des êtres profondément différents de n'importe quelle autre espèce de primate. Et ça, c'est un potentiel que nous avons tous. Mais les hasards de la vie, les hasards de l'éducation, les goûts que nous avons vont nous faire spécialiser ce cortex dans tel ou tel domaine. Et donc, effectivement, si vous apprenez à lire, vous allez spécialiser telle région du cortex pour la lecture. Si vous apprenez la musique, ben, on le voit aussi dans votre cerveau. Vous allez développer des régions qui s'intéressent à la partition au niveau visuel. Et puis, bien sûr, vous allez développer votre cortex moteur et puis des régions de commande motrice de plus haut niveau. Le petit doigt des violonistes, la main gauche des violonistes, qui est tellement extraordinaire à regarder, eh bien, on le voit sur le cortex moteur. Ça séparait plus nettement les régions qui commandent les différents doigts de la main gauche des violonistes. Donc, oui, on peut considérer... Moi, je fais la métaphore, une sorte de corail, le développement. Voilà. On a, vous imaginez, un arbre de corail qui est magnifique, qui se développe. Bien, au départ, le tronc se ressemble beaucoup d'une branche de corail à l'autre, mais plus on avance dans le développement et dans l'éducation, plus ces branches vont se différencier les unes des autres, et chaque corail est unique, chaque cerveau est unique.
Est-ce qu'on peut faire l'expérience de pensée suivante? On remplace votre cerveau par le mien, et le mien par le vôtre. qu'est-ce qui changerait dans notre perception, dans nos facultés, dans nos connaissances? Est-ce que ça a un sens de poser la question?
Ça me rappelle une blague de Woody Allen qui disait « Dans les greffes d'organes, la greffe de cerveau, c'est le seul domaine où il vaut mieux être le donneur. » Voilà. c'est pas faux. Je pense vraiment que toutes nos représentations mentales tiennent dans notre cerveau. Donc, la greffe de cerveau, c'est celui qui amène l'organe cerveau, qui reste l'individu, même si le corps change. Bon, c'est une expérience de pensée un peu absurde, parce qu'il faudrait réussir à reconnecter au reste du corps tous les systèmes sensoriels. Voilà. Mais si on pouvait le faire, ce sont vos idées, votre personnalité qui se promènerait avec votre cerveau.
Indépendamment de mon corps. Mon corps n'a aucun effet sur la façon dont mon cerveau fonctionne.
Là, je vous fais part de mes hypothèses. Et il y a tout un courant de pensée qu'on appelle sensorimoteur, qui prétend qu'il y a un ancrage très fort de la pensée dans le corps et dans les émotions. Mais ce n'est pas le courant dominant en sciences cognitives. Et le courant dominant, c'est de penser vraiment que ce sont des représentations mentales qui comptent. Et j'en donne beaucoup d'exemples dans mon livre. Par exemple, on peut être une personne aveugle et avoir exactement les mêmes idées mathématiques qu'une personne voyante.
Bon, ça, c'est incroyable.
C'est extraordinaire. Ben, on pourrait penser que c'est d'autres mathématiques qu'on développe par le biais du toucher. Pas du tout. Ça veut dire que nos objets mathématiques sont indépendants, dans une grande mesure, de la relation au monde extérieur. Ce sont des objets autonomes, internes.
On peut faire de la géométrie sans avoir jamais vu de figure géométrique.
On a en France un très grand mathématicien, Emmanuel Giroud, qui a démontré des théorèmes extrêmement importants en géométrie. Géométrie, loin de la réalité la plus concrète des formes géométriques.
Topologie.
Mais, qui sont vraiment des objets. Il utilise d'ailleurs le terme vision intérieure. Il dit « je les vois ». Bon, il les voit pas comme nous, mais il a une représentation spatial, visuo-spatial, des mêmes objets. Je pense qu'on sous-estime en permanence cette capacité qu'a le cerveau de projeter sur le monde extérieur des représentations. Le cerveau, contrairement aux dispositifs d'intelligence artificielle, n'est pas sans cesse en train d'accumuler les données et de se faire une idée à partir de millions d'observations. C'est pas comme ça. Il a hérité de l'évolution beaucoup de représentations structurées qui sont déjà là, dès le départ, et qui sont appliquer au monde extérieur. Il ne reste plus, comme on disait au départ, qu'à les calibrer, à les orienter. Et puis c'est tout, le reste de la structure est déjà là.
Il y a plusieurs chapitres, Stanislas Zohan, que vous consacrez à la dyslexie, qui est un sujet que vous avez beaucoup étudié. Donc il y a des gens qui, lorsqu'ils voient écrit « agile », lisent « aigle ». Autrement dit, ils lisent une anagramme du mot.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce qui fait que les anagrammes, on a du mal à les trouver ?
Ça dépend des gens.
Non, mais quand
je parle à quelqu'un qui est...
Non, mais justement, c'est un gros travail. Si j'écris le chaos, je vois pas tout de suite que l'anagramme, c'est la chose. Si j'écris Stanislas, je vois pas que ça veut dire... Enfin, c'est l'anagramme de salissant.
C'est exact.
Que Stanislas de Han, c'est l'Athénien de Assas. Je le vois pas tout de suite.
On m'avait dit « S'il danse à Athènes ».
Voilà.
C'est l'anagramme de mon nom.
Voilà.
S'il danse à Athènes.
Ça se voit pas tout de suite.
Alors, le cerveau, lui, voit des anagrammes dans un contexte très particulier. En fait, on parle d'un seul mot, comme le mot « agile », on disait tout à l'heure. Et ce qui se passe, c'est que notre cerveau de bon lecteur, il code l'ordre des lettres dans le mot en partant de la gauche et en partant de la droite. Donc, il sait très bien quelle est la première lettre et quelle est la dernière lettre.
Ah, c'est ça, si
et
on
puis,
change,
plus on va vers le centre, moins le codage est précis.
Moins ça compte.
Et voilà, exactement. Donc, la lettre 2 et la lettre 3, elles sont assez proches. Et elles vont être facilement échangeables. Et ces anagrammes-là, le cerveau les voit facilement. Et chez certaines personnes dyslexiques, c'est l'origine de la dyslexie. Elles vont transposer des lettres. Il est important de comprendre qu'il y a plusieurs sortes de dyslexie. Donc, tout le monde n'est pas pareil. Mais il y a ces enfants dyslexiques-là, ils transposent les lettres.
Alors venons-en au calcul maintenant, parce que ça fait partie des apprentissages qui se passent plus ou moins bien pour les enfants. Est-ce que les bébés comptent ?
Oui, ça fait partie des composantes innées du système. Alors c'est des expériences extraordinaires qui sont de plus en plus en train de tester des enfants qui viennent de naître. Et on montre qu'ils sont capables de compter, peut-être pas le bon terme, ils sont capables d'estimer ce qu'on appelle la numérosité, c'est-à-dire la quantité numérique d'un ensemble concret d'objets. Mais cet ensemble peut être visuel ou il peut être auditif. Un bébé connaît la correspondance entre quatre sons et quatre objets visuels, par exemple. Et au labo, avec mon épouse Ghislaine et une jeune femme qui s'appelle Julia Denari, pour sa thèse, on a réussi à montrer que on pouvait enregistrer des signaux au niveau du scalp du bébé, ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme, et appliquer un algorithme d'intelligence artificielle pour décoder quel était le nombre auquel l'enfant était en train de penser. Donc, on arrive à dire c'est 4 et c'est pas 12, vice-versa. Et une fois qu'on a un tel décodeur entraîné avec des objets auditifs, on peut le généraliser à des objets visuels. Donc, c'est vraiment un sens abstrait du nombre qui est là chez le tout petit enfant.
Vous montrez aussi des choses incroyables, notamment ce que vous appelez l'effet SNARK. Si vous demandez à quelqu'un de penser à un nombre entre 0 et 100, s'il pense à un nombre élevé, entre 50 et 100, disons, son regard se tourne vers la droite. Et si c'est un nombre plus faible, le regard se tourne vers la gauche. Comment ça se comprend, ça?
C'est un effet que j'ai découvert juste après ma thèse, donc ça fait déjà un bon bout de temps maintenant. Et oui, automatiquement, les petits nombres, on les pense à gauche, et les grands nombres, on les pense à droite. Et alors, à l'époque, j'étais persuadé que c'était un effet culturel. C'est-à-dire que nous lisons de gauche à droite, et ça fait qu'on rencontre les petits nombres avant les grands nombres, donc plutôt à gauche, et les grands nombres plutôt à droite. Et on avait fait quelques manips qui montraient que ça pouvait s'inverser un petit peu. C'était pas très clair comme effet, mais on avait testé des étudiants iraniens, il y a eu des expériences sur des lecteurs de l'arabe. On avait l'impression que l'effet s'inversait. Et puis, récemment, et j'en parlerai dans mon cours au Collège de France dans quelques semaines, on s'est aperçu que pas du tout, c'est encore un effet inné. Même d'autres espèces animales mettent les petits nombres à gauche et les grands nombres à droite. On parlait des abeilles tout à l'heure, elles préfèrent tourner à gauche quand c'est un petit nombre, et tourner à droite quand c'est un grand. Elles peuvent apprendre les deux, mais enfin, il y en a un qui est plus naturel que l'autre. Donc, c'est quelque chose de très ancien dans l'évolution, pas très bien compris. Ce qui est sûr, c'est que tous nos cerveaux ont une correspondance entre les nombres et l'espace. Il y a un espace des nombres. C'est comme ça qu'on conçoit les nombres. C'est pour ça que le concept de ligne numérique à l'école est tellement puissant. C'est vraiment comme ça qu'on imagine les nombres, et ceci depuis le départ, et sans doute depuis très longtemps dans l'évolution.
Mais est-ce que j'ai le droit de dire alors que les nombres, disons l'algèbre en général, est couplée dans notre cerveau, la géométrie?
C'est vraiment ce qu'on voit au niveau cérébral. On fait des expériences en ce moment, j'ai vraiment un grand projet de recherche là-dessus. On scanne des personnes pendant qu'elles sont en train de réfléchir à des faits mathématiques, à des objets mathématiques. Et il y a un recouvrement très fort, pas complet, mais très fort, entre les représentations de la géométrie et les représentations de l'arithmétique, au minimum. Et en fait, l'histoire des mathématiques, c'est beaucoup d'histoire d'un ping-pong entre ces deux domaines. Elles allaient retour constant. Hein. L'invention des nombres réels, par exemple, c'est clairement l'application de la notion du continu de la droite à l'espace des nombres. Et on se rend compte qu'il y a un nombre infini de nombres pour arriver à les décrire, et on arrive au concept de nombre réel. Donc, c'est juste un exemple. Vraiment, la métaphore de l'espace pour parler des objets mathématiques est constante. Et ces liens entre nombre et espace sont extrêmement puissants pour construire les objets mathématiques.
Est-ce que vous êtes prêt d'accéder à une compréhension de ce qu'on pourrait appeler l'origine de la géométrie?
Ce sera mon prochain bouquin.
Ah ben, il faudra revenir.
Mais on verra, mais d'une certaine manière, oui. L'idée, c'est que nous avons observé que l'espèce humaine est spéciale. Et il faut bien comprendre, nous sommes issus de l'évolution, mais nous avons quand même des idées tout à fait particulières. Alors dans le domaine des nombres, d'autres animaux ont des représentations du nombre, mais nous sommes les seuls à avoir la notion de nombre exact. Il n'y a pas d'autre espèce animale qui soit capable de distinguer 12 de 13. Nous le faisons.
Là, vous parlez de nombre entier.
De nombre entier, absolument. Et même chose dans le domaine de la géométrie. Nous sommes la seule espèce animale, apparemment, à s'intéresser à un carré ou à un rectangle. Pour toutes les autres espèces, ce sont des formes plus ou moins différentes les unes des autres. Mais pour nous, le carré a quelque chose de spécial parce que c'est une sorte d'objet minimal dans lequel il y a quatre côtés égaux, quatre angles égaux, n'est-ce pas, quatre angles droits. Nous avons cet intérêt pour les représentations symboliques, discrètes et qui se composent entre elles pour former des objets plus complexes. Voilà. Le carré, c'est un quadrilatère, c'est une forme à quatre côtés. C'est déjà une formule. Alors cette idée d'avoir des expressions mentales pour formuler des objets de pensée de plus haut niveau, l'hypothèse que nous faisons, c'est que c'est une spécificité de l'espèce humaine.
C'est d'ailleurs une capacité symbolique, on pourrait dire, ou d'abstraction.
C'est à la fois symbole et syntaxe. C'est-à-dire attachement d'un objet à une pensée et composition de ces objets de pensée pour créer des objets plus complexes.
Et on pourrait étendre ça au nombre, le fait qu'on les associe à des chiffres.
Absolument.
Ou pour la langue, pour les sons avec des lettres, un alphabet.
Exactement, et donc c'est l'hypothèse que nous faisons, c'est qu'il y a beaucoup de langage dans le cerveau, que cette fonction symbolique finalement est apparue dans plein de circuits différents du cerveau, et c'est ce que nous voyons en imagerie cérébrale. Hein. Donc on pense toujours dans le domaine de la singularité humaine au langage parlé, mais ce que ces recherches semblent montrer, c'est qu'il y a de nombreux langages, le langage des mathématiques, le langage de la musique, le langage de la géométrie, le langage de la vision, et que dans tous ces domaines, nous sommes spéciaux.
Est-ce que c'est important, quand on veut apprendre, de cesser d'apprendre? Est-ce qu'il faut ménager des temps de repos? Ou est-ce que, si on doit éduquer un enfant, on doit le soumettre à toutes sortes de régimes d'apprentissage pour qu'il développe toutes les potentialités du cerveau? Ou bien est-ce qu'il y a un moment où ça sature?
Ce qui est important de comprendre, c'est que le cerveau doit consolider les apprentissages. Et pour le faire, comme je l'explique dans le livre, il y a une phase extrêmement importante qui est le sommeil. On a tendance à penser que le sommeil est une période où le cerveau se nettoie, et c'est vrai d'ailleurs, hein. Mais il ne fait pas que ça, il travaille très durement, et en fait, c'est l'alternance veille-sommeil qui consolide les apprentissages et qui permet d'aller plus loin. Donc, il faut ménager des périodes de repos, ça peut être aussi une simple sieste, ou ça peut être aussi une marche calme, etc., des moments où l'esprit vagabonde, mais en réalité, le cerveau approfondit les concepts qu'il a appris auparavant. Et chez l'enfant, c'est encore plus important que chez l'adulte. Il y a des recherches qui montrent que pour la même durée de sommeil, la profondeur du sommeil de l'enfant est beaucoup plus grande et ça a des effets jusqu'à 2 à 3 fois plus importants sur les apprentissages que chez l'adulte.
Bon, ça c'est une leçon qu'on va essayer de retenir. Mais à propos de l'enseignement des mathématiques, à la fin de l'année 2024 sont parus les résultats du classement TIMSS qui mesure les performances en mathématiques des élèves de CM2 ou CM1 et de 4e. Et la France est dernière des pays d'Europe, avant-dernière des pays de l'OCDE, et bat tous les records en matière de différence de niveau entre les garçons et les filles.
Et donc, aussi sur l'impact du niveau socio-économique des familles.
Donc ça va pas.
Et il y a vraiment un problème, et c'est pas la première fois. Hein. Oui. Cette enquête a lieu tous les 4 ans, et c'était déjà le cas il y a 4 ans.
Donc qu'est-ce qui va pas? Alors même qu'en France, on a plutôt l'impression d'être bon en maths, puisqu'on a des prix Nobel, des médailles Fields, une élite assez forte. Mais le niveau général est très bas.
Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que les élites sont épargnées par cette baisse récente du niveau. Ça n'est pas vrai, c'est pas ce que montrent les statistiques. Toute la distribution des résultats français a été baissée et il n'y a pas d'enfants qui ne soient pas touchés, même dans les meilleures familles. C'est vraiment un problème majeur. Je pense qu'il faut qu'on s'en préoccupe beaucoup plus activement qu'on ne le fait actuellement. C'est un scandale quelque part pour notre système éducatif. On a perdu quelque chose dans l'enseignement des mathématiques. On a perdu sans doute ce rattachement au concret des mathématiques. Pour beaucoup d'enfants, les mathématiques sont une construction abstraite complètement découplée du réel. Il faut suivre les règles que donne l'enseignant. Ce sont des règles arbitraires, sans intérêt d'ailleurs. Et les bons élèves arrivent à apprendre ça par cœur et les autres non. Il y a aussi cette idée que certains enfants sont doués et d'autres ne le sont pas. Mmh. Tout ceci, ce sont des idées inappropriées.
Est-ce que pour comprendre, il faut se tromper?
Pour comprendre, il faut se tromper. Pour comprendre, il faut faire un effort. Il y a des élèves qui pensent que s'ils font un effort, c'est qu'ils sont pas doués. Donc, c'est pas la peine. Non, c'est pas vrai. Tous les cerveaux humains doivent faire un effort pour atteindre ce niveau supérieur. Il faut apprendre un petit peu tous les jours. C'est vraiment comme la musique. Donc, apprendre un petit peu tous les jours et consolider pendant la nuit, laisser son cerveau travailler. Moi, j'aime beaucoup la manière dont les professeurs de musique fonctionnent. Ils sont pas en train de stresser leurs élèves, enfin... Bon, ça dépend sans doute des conservatoires, mais au moins dans les petites classes, c'est plutôt, tu vas voir, tu vas jouer tous les jours, un petit quart d'heure, et tu reviendras dans une semaine, tu sauras ton morceau. Personne ne s'attend à ce qu'on connaisse le morceau dès le départ, évidemment. Mais on sait que le cerveau va progresser de cette manière-là. Et je pense vraiment qu'on devrait adopter une approche très similaire en mathématiques. Le pays va dans le bon sens dans la mesure où on se rapproche des pays asiatiques et ce qu'on appelle la méthode de Singapour, qu'il s'agit pas d'adopter telle quelle, mais à la française. Mais ça veut dire un programme beaucoup plus régulier et sous forme de spirale. Au lieu d'attendre le CM1 et surtout le CM2 et surtout la fin du CM2 pour aborder les fractions, par exemple, eh bien on va les aborder dès le début. dès le CP, dès le CE1. Et on va y revenir chaque année en approfondissant un petit peu plus. Au départ, on dira juste un demi, un tiers. Tu sais ce que c'est, un demi, un tiers? Oui, je sais ce que c'est. Eh bien, ensuite, tout doucement, on va regarder. Alors, qu'est-ce que ce serait que la moitié d'un carré? Qu'est-ce que ce serait qu'un quart de carré? Etc. Et puis, seulement à la fin, on va introduire les symboles. En France, on va beaucoup trop vite au niveau symbolique, beaucoup trop vite au niveau d'abstraction, et on perd beaucoup trop d'élèves en cours de route. C'est pour ça aussi que je suis favorable à l'idée de groupes de soutien, mais dans un contexte très précis, c'est-à-dire des élèves dont on identifie les besoins, et pendant quelques semaines, on va avoir une pédagogie très particulière pour les ramener au niveau.
J'ai oublié de le dire en vous présentant, Stanislas Zouane, mais vous êtes président du conseil scientifique de l'éducation nationale, donc j'imagine que vous parlez de ces recommandations.
Exactement. Ça fait 7 ans que ce conseil existe maintenant. Oui, je crois qu'on est entendu, absolument. Sur le plan de la lecture, il faut certainement pas lâcher le morceau, mais tout le monde est d'accord qu'il existe une science de la lecture et que nous savons comment elle peut être la mieux enseignée. Dans le domaine des mathématiques, beaucoup de choses restent à faire, mais comme je le disais, les changements de programme vont dans le bon sens. Maintenant, je reviens de Singapour. Il faut être conscient que à Singapour, on ne se contente pas d'édicter un programme. Ce sont les mêmes personnes, le même groupe de spécialistes des mathématiques qui font le programme, qui définissent la formation des enseignants pour ce programme. Et ça, c'est fondamental. Les enseignants français ne reçoivent pas assez de formation, donc ils sont désemparés face à ces pédagogies. Et ensuite, il y a aussi la question des manuels. Il faut que les enseignants acceptent d'être accompagnés par un très bon manuel. Mais pour ça, il faut que les manuels soient labellisés, qu'on sache ceux qui sont conformes et ceux qui ne sont pas conformes. C'est seulement tout récemment que cette chose-là commence à se mettre en place. Donc c'est tout un système qui doit aider les enseignants à mieux faire. Il n'y a aucun doute que les enseignants sont pleins de bonne volonté. On a un système qui est bien organisé en France, mais il faut arriver à le refocaliser sur les meilleures méthodes pédagogiques et d'apprentissage.
Vous parlez de refocalisation, ça pose la question de l'attention. On parle beaucoup du numérique, des écrans. Est-ce que la dispersion de l'attention, qui est rendue possible par le fait que toutes sortes de sollicitations peuvent la perturber, peut être une explication de cette chute du niveau ?
Oui et non, parce que cette chute n'existe pas de la même manière dans tous les pays. Hein. Et pourtant, tout le monde est confronté au même problème de réseaux sociaux qui exigent beaucoup d'attention. Mais cela dit, c'est vrai que nos élèves ont des difficultés dans ce domaine et on les comprend. Hein. La stimulation est considérable. Là encore, l'école française a pris de bonnes décisions et notamment celle de ne pas laisser les enfants utiliser leur téléphone portable dans les lieux scolaires. Il faut absolument pas lâcher les choses et les aider à entraîner leur attention. L'attention, c'est comme toutes les autres facultés cognitives, c'est un objet d'apprentissage. On peut apprendre à mieux faire attention et ça a un effet massif sur les autres apprentissages.
Dans votre livre, vous dites qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. En tout cas, le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps.
Au niveau conscient.
Et pourtant, on lui demande de plus en plus de répondre à des sollicitations incompatibles entre elles. Une sorte d'entropie chronodispersible de l'attention.
Ce qu'on montre en sciences cognitives, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de goulot d'étranglement central, conscient. Hein. On ne peut pas consciemment avoir deux idées incompatibles en même temps. On est obligé de faire la tâche 1, puis la tâche 2. Et effectivement, à chaque fois qu'on change de tâche, il y a un coût. On risque d'être distrait, on risque de se tromper, il y a un ralentissement du temps. C'est très facile à mesurer en laboratoire. Il n'y a pratiquement pas d'exception. Les seules exceptions, c'est quand une des tâches est automatisée. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'automatisation. Vous êtes capable de conduire votre voiture tout en ayant une conversation avec quelqu'un d'autre. C'est parce que les deux activités, au niveau périphérique, au moins, sont automatisées. Il faut que l'école parvienne à automatiser la lecture et les fondements des mathématiques, par exemple le calcul mental, le plus rapidement possible pour libérer l'esprit quelque part, pour pouvoir penser à des choses plus complexes.
Jean-Pierre Changeux, l'homme neuronal, vous le connaissez bien, écrit « Apprendre, c'est éliminer ». Quand on vous écoute, on a l'impression que ce n'est pas si simple.
C'est un peu plus complexe que ça. Apprendre, c'est éliminer des synapses, mais c'est aussi construire des circuits nouveaux. Et chez l'homme, cet aspect construction de concepts est sans doute très important. Il faut imaginer une pyramide de concepts mathématiques qui se forment dans le cerveau de l'enfant. Simplement, Jean-Pierre a mille fois raison, ça se passe sur un mode sélectif, c'est-à-dire le cerveau qui est engagé, génère des hypothèses, trop d'hypothèses, et va sélectionner seulement celles qui collent avec ce qui doit être appris. C'est pour ça que j'insiste aussi énormément dans mes écrits sur ce que j'appelle l'engagement actif des enfants. C'est un des piliers de l'apprentissage. Un enfant qui est passif, il apprend rien ou très peu. Il faut être actif, essayer de deviner quelle va être la bonne réponse, essayer de prédire, essayer de faire des hypothèses, et ensuite, le bon enseignant, il sculpte ses idées, il les oriente dans la bonne direction, il les rend explicites, il explique à l'enfant quelles sont les bonnes idées, quelles sont celles qui ne fonctionnent pas.
Vous êtes professeur au Collège de France, Stanislas Dehaene, et avant vous, il y a eu comme professeur dans cette glorieuse institution, Pierre Janet, psychologue, qui écrit ceci, « Percevoir un fauteuil, c'est imaginer qu'on va s'y asseoir ». Donc ça veut dire qu'il y a des verbes d'action qui sont associés, en l'occurrence, à la perception d'un fauteuil. Ma question, c'est, est-ce que le corps n'est pas engagé dans tout cela, en plus du cerveau?
Dans les deux cas, c'est le cerveau. Hein. Ce que veut dire Janet, c'est qu'il y a des représentations communes à la perception et à l'action. Nous disons exactement la même chose dans les recherches les plus récentes, lorsqu'on dit que percevoir un carré, c'est imaginer le programme qui permet de dessiner le carré. Et les enfants dessinent très tôt et font preuve d'une abstraction extraordinaire dans leur dessin. Donc oui, il y a des liens entre perception et action, mais ça ne veut pas dire que ça se passe dans le corps, ça se passe dans le cerveau, ça se passe sous la forme de construction d'idées abstraites qui sont communes à la perception et à l'action.
Alors j'en déduis que vous seriez d'accord avec cette phrase d'Henri Poincaré, mathématicien, qui écrit « Localiser un objet en un point quelconque, c'est se représenter les mouvements qu'il faut faire pour l'atteindre ».
Ce que disait Poincaré, c'est qu'il y a une certaine notion du groupe de transformation des objets qui permet de soit d'orienter l'objet, soit au contraire de nous orienter par rapport à lui. Hein. Oui, je crois à cette idée. J'aime bien les écrits de Poincaré, c'est un visionnaire absolument extraordinaire, hein, pas seulement en mathématiques, mais ses écrits sur la science et l'hypothèse, c'est aussi de la psychologie du mathématicien, quelque part. Hein. Et je pense qu'il a vu avant tout le monde que nos idées abstraites sont proches des idées mathématiques, ce sont des idées de groupe qui sont extraordinairement abstraites par rapport au monde extérieur. Quand un enfant fait un petit dessin à 3 ans, les gens considèrent que ce sont des gribouillis, mais si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que pas du tout. Les enfants sont allés droit au but, droit vers l'abstraction, ont trouvé le squelette fondamental et les quelques formes qui permettent de l'approximer. Notre cerveau réalise des prouesses d'abstraction.
Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée du corps, si on vous écoute. C'est plutôt la conscience que le cerveau a du corps qui est mobilisée dans la pensée.
C'est exactement ça. Nous avons beaucoup d'exemples de déficits dans lesquels, si la pensée était tellement dépendante du corps, elle devrait être profondément différente chez un enfant tétraplégique, par exemple. Mais ce n'est pas le cas.
J'ai une dernière petite question à vous poser. C'est une colle que j'ai proposé à des élèves de collège. Je leur ai dit, voilà, un timbre et son enveloppe coûtent 1,10€. Si le timbre coûte 1€ de plus que l'enveloppe, combien coûte l'enveloppe?
C'est un grand classique.
Voilà, alors. Et ils m'ont tous dit, 10 centimes.
Oui,
non, pardon, 1€ pour, oui. Pour le timbre et 10 centimes pour l'enveloppe.
Oui.
Et c'est faux.
Et c'est faux. C'est un grand classique.
Alors quel est le biais qui intervient là-dedans?
Des biais cognitifs. On pense que c'est un biais de ce qu'on appelle sauter aux conclusions. Hein. Le donné du problème donne envie de sauter à cette conclusion-là. Il y a beaucoup d'exemples de ce type-là. Les élèves français souffrent, par exemple, de situations de problèmes verbaux, notamment dans l'enquête Teams, où parce que l'énoncé utilise le terme « moins », on a envie de soustraire. Mais non, il faut additionner, si on réfléchit au sens du problème.
Il faut réfléchir et il faut parfois se méfier de notre cerveau.
Et il faut approfondir.
Merci Stanislas Dehaene d'être venu dans notre émission. Je recommande la lecture de votre livre « Une idée dans la tête » paru aux éditions Odile Jacob. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Marie-Claire Oumabadi et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.